Alors, pour commencer, j'aurais besoin d'un volontaire. Un volontaire, ça m'évite de désigner en fait, hein, c'est pour ça. C'est pas long, c'est juste un volontaire. On désigne. Voilà. Merci Chantal. Donc, je suis Dieu. Ça se voit pas, hein. Je suis Dieu. Et Chantal, tu vas faire ma volonté. D'accord? Et donc, je vais t'ordonner d'aller. Fais ma volonté. Vas-y, fais ma volonté. Agis. Fais ma volonté. Exerce-la.
La connais pas.
Ok. Donc maintenant, ça c'est une situation 1, d'accord? C'est juste pour illustrer, c'est très court. Maintenant, situation 2. Ma volonté, c'est que tu ailles faire un hug à Marie. Et après le culte, tu peux faire des hugs à tout le monde si tu veux. C'est bon, merci. Bon, j'arrête d'être Dieu, ok? Voilà. Non, c'est tout simple. Je voulais simplement rappeler quelque chose ce matin, ce que j'ai illustré à ce moment-là, c'est l'importance d'avoir une vision, l'importance de savoir où on va et de savoir comment on y va. Des fois, on est dans cette attitude où on est là, Seigneur, qu'est-ce que j'ai envie de faire ta volonté? Et en même temps, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux pour ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je ne sais pas quels sont tes projets pour moi. Et on est un peu dans cette situation-là où, ben voilà, oui, ok, et je fais quoi? Alors, ben, mon attitude de cœur, c'est de faire ta volonté, Seigneur, mais c'est quoi? C'est quoi ta volonté pour moi? Et il y a une vérité ce matin que j'aimerais rappeler, c'est que le Seigneur parle. Le Seigneur parle, le Seigneur répond. Et je ne crois pas que qui que ce soit qui réclame à Dieu, Seigneur, écris dans mon cœur ce que tu veux pour moi, le Seigneur ne lui réponde pas. Et moi, je crois à cette efficacité de l'Église avec un grand E quand elle se met devant Dieu et quand elle dit, Seigneur, fais naître en nous des projets, fais naître en nous des rêves, fais naître en nous une vision. Amen. Mon message est terminé. Voilà, plutôt que de vous faire une longue chose et d'arriver à une conclusion, j'aimerais qu'on parte de ce à quoi je veux vous amener ce matin, et puis je vais le développer. J'ai regardé un petit peu en 2012, en France, vous savez combien il y a eu de créations d'entreprises? On n'est pas dans le monde de l'Église, là, on est dans le monde séculier, on parle de l'homme. Il y a eu 120 000 créations d'entreprises. Donc ça compte aussi les entreprises individuelles, hein. Mais 120 000, ce chiffre, il me paraît hallucinant. Qu'en une année, on ait 120 000 personnes qui portent un projet et qui vont jusqu'à le déposer. D'accord? C'est pas juste j'ai une idée, c'est quelqu'un qui démarre quelque chose. 120 000 personnes. En même temps, quand on regarde les chiffres, dans la même année, on a 60 000 fermetures, 60 000 entreprises qui se sont arrêtés. Donc ce n'est pas ces 120 000-là qui se sont arrêtés dans la même année, forcément. Simplement, ça montre quelque chose. C'est que l'homme fait des projets. Vous connaissez ce verset, hein? Mais la réponse vient de l'Éternel. Et l'homme fait des projets. Et ça, c'est une réalité. 120 000 créations d'entreprises. Et dans l'Église, c'est la même chose. Autant de projets. Je ne sais pas combien on fait de projets chaque année. Mais Dieu a mis dans nos cœurs cette capacité d'imaginer, cette capacité de créer. Cette capacité d'innover, de projeter, de rêver. Et c'est juste et c'est bon. D'accord? Le monde nous donne l'exemple, hein. 120 000 créations d'entreprises, pour moi, c'est simplement une révélation que même sans Dieu, dans le cœur de l'homme, Dieu a déposé cette capacité à créer, cette capacité à rêver, cette capacité à avoir envie de planifier les choses. Et j'aimerais, dans cette dynamique-là, parce que on est très auto-centré, hein, dans ce sujet-là. Là, je suis en train de parler de mes projets, mes rêves, ces choses-là. Et j'avais juste envie qu'on puisse prendre un peu de hauteur et qu'on fasse un petit voyage ensemble pour prendre la perspective de Dieu sur les choses. Et j'aimerais vous montrer simplement qu'il y a déjà une route qui est tracée et qu'on est simplement en train de rentrer dans cette route-là. Donc, dans ce petit voyage, on va revenir jusqu'à Adam et Ève. D'accord? Je vais vous montrer, on va faire ce qu'on appelle de la géographie biblique. Alors, ça n'a rien à voir avec la géographie, mais ça s'appelle comme ça. Donc, Adam et Ève ont été créés. Adam et Ève étaient avec Dieu. Ils bénéficiaient de la plénitude de sa présence. Donc souvenez-vous, Adam et Ève sont dans la présence de Dieu. D'accord ? Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà des lois. Il y en avait une en tout cas. Si tu peux manger de tout, tu peux jouir de ma création, il y a une seule chose que tu ne dois pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok ? Donc, présence de Dieu, une loi, qu'est-ce qu'il y a eu ? Obéissance ? Non, il y a eu désobéissance. Il y a eu désobéissance d'Adam et Ève, qui représente l'humanité hein, dans ce que je vais dire là. Désobéissance d'Adam et Ève, et donc la conséquence de cette désobéissance, c'est l'exil. L'exil de ce qui était promis, d'accord ? L'exil de cette création parfaite. Et on peut se dire des fois en lisant la Bible que ben, Dieu avait un plan B qui s'appelait Abraham. Moi, je ne crois pas que c'était un plan B. Parce que quand on s'intéresse de plus près à l'histoire d'Israël, on se rend compte que ce slick que je viens de décrire avec Adam et Ève est revécu de la même façon par Israël. En Abraham, des promesses ont été faites pour le peuple d'Israël. Israël était le seul peuple qui pouvait jouir de la présence de Dieu. Dans le tabernacle, on avait une présence totale, une plénitude complète de Dieu qui habitait, qui demeurait au milieu de son peuple. Les autres peuples en étaient privés. Bien sûr, il y avait les lois et il y a eu désobéissance. Aucun Israélite n'est parvenu à la perfection. Aucun Israélite n'a été rendu capable d'accomplir ces lois. La conséquence de tout ça, c'est qu'il y a donc eu l'exil, de nouveau. Israël est sorti du pays promis. Dans l'histoire d'Israël, on a l'histoire d'Adam et Ève qui est rejouée. La même, exactement la même. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette continuité, il y a un Israélite, Jésus, qui a suivi ce même cycle. Et qui rejoue dans sa propre vie l'histoire d'Adam et Ève et l'histoire d'Israël, l'histoire de l'humanité et l'histoire d'Israël. Jésus était le premier Israélite. Donc bon, c'est un peu un pléonasme de dire que Jésus était plein de la présence de Dieu, vu qu'il était Dieu lui-même. Mais Jésus bénéficiait ça, de cet esprit sur lui. Il bénéficiait de cette présence de Dieu. Et c'est le premier Israélite qui était soumis à la loi, comme tous les autres, mais qui l'a mené jusqu'à sa perfection, qui l'a accompli jusqu'à son terme. C'est le premier qui a été obéissant jusqu'à la mort. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Premier qui a été obéissant jusqu'à la mort, et quelque part, il ne méritait pas l'exil. Et pourtant, la croix symbolise cet exil-là. Au moment où Jésus meurt sur la croix, il est en train de rejouer l'exil d'Adam et Ève. Il est en train de rejouer l'exil d'Israël et par la résurrection, il proclame le pays promis pour aujourd'hui, le royaume de Dieu. Quand on dit le royaume de Dieu est là, c'est à cause de ça. Les Juifs attendent le retour dans le pays promis. Mais nous, on sait, la Bible présente cette histoire de Jésus, de l'olivier greffé, où les deux oliviers sont rassemblés en un seul. Les oliviers sont rassemblés en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, le pays promis est là. Le royaume de Dieu est là. Et l'histoire que Jésus a commencé, que Dieu a commencé en Adam et Ève, et qui a continué en Abraham, et qui a continué en Jésus, c'est juste une continuité des choses. Et j'aimerais juste qu'on se place ce matin, pour dire ce qu'on va dire, qu'on se place dans cette perspective, d'accord ? Pas ma perspective sur les choses, pas moi vis-à-vis de Dieu, mais simplement dans cette perspective que oui, il y a un plan éternel, il y a une route qui est là, qui passe devant moi. Et moi, je peux me tenir ici ou je peux rentrer là-dedans. Mais dans tous les cas, ce ne sera jamais ma route. Ce ne sera jamais ce que moi je vais créer, ce que moi je vais mettre en place. Je veux vraiment que ce soit, voilà, hein, poser ça ce matin. De rentrer dans la perspective de Dieu. Et donc je disais, le royaume de Dieu est là, et on est dans ces temps, de pays promis. Et j'aimerais qu'on réalise cette perspective qu'on est dans le plan d'un Dieu qui voit, d'un Dieu qui connaît déjà l'avenir. Nous, on a une connaissance partielle des choses. On a un Dieu qui planifie, on a un Dieu qui fait des projets. Éphésiens 2.10 dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. » Amen. « Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Jusque-là, ce que nous faisons, ce que nos mains trouvent à faire, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance. D'accord ? Il y a une route devant nous. En Proverbe, il y aura pas mal de versets hein, ce matin. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup démontrer ce que je raconte. C'est un côté mathématique. Dans Proverbe 29, 18, il y a un verset qui m'a frappé. Et puis, c'est à partir de ce verset-là que j'ai construit ce message ce matin. Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le mot vision, c'est quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de prophétie. C'est ce sens-là du mot vision. Hein. C'est pas juste quand il y a cécité ou quand on est aveugle. Non, c'est quand on n'a pas de révélation, quand on ne connaît pas, quelque part, hein, ce que j'ai fait avec Chantal tout à l'heure. Le peuple est sans frein. Sans frein, c'est traduit autrement par le peuple est sans retenue, le peuple est dans le désordre, le peuple se laisse aller, ou le peuple est abandonné. Voilà. Selon les versions, on trouve un petit peu toutes ces choses-là. La racine du mot sans frein, de toute façon, c'est celle-là. Hein. C'est le même mot que pour bride ou pour mort. Donc vous imaginez un bœuf qui doit creuser un sillon dans un champ. S'il n'est pas tenu, il ne creusera pas un sillon droit, c'est impossible. Et je me suis intéressé à ce mot vision, parce que je me suis dit, le peuple est sans vision, et donc il est sans frein. C'est que cette notion de vision est importante, et j'ai essayé de regarder en hébreu, à quel endroit est-ce qu'on retrouvait ce mot, et pour voir un petit peu l'importance, l'étendue. Et j'ai été assez surpris parce que j'ai trouvé la première endroit où j'ai trouvé ce mot, alors vous excuserez ma prononciation pour ceux qui parlent mieux que moi, apparemment c'est Kauzao, ça s'appelle, voilà, C-H-A-Z-A-H, pour ceux qui prennent des notes. Et on retrouve ce terme-là, qui est traduit ici par vision, révélation, on le retrouve dans Exode 18-21, au moment où Jéthro s'adresse à Moïse par rapport aux problèmes que Moïse a vis-à-vis du peuple et toute l'organisation, etc. Et Jéthro utilise ce mot quand il dit à Moïse « choisis parmi le peuple ». Et je trouve étonnant que ce terme de vision et de révélation se transforme en action à cet endroit-là. Et on a un mot qui est là « choisis parmi tout le peuple, des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête, établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. » Vous connaissez peut-être ce texte où Jéthro aide Moïse à organiser le peuple pour ne pas être lui-même débordé. Et voilà, cette vision, cette révélation, finalement, ce discernement se traduit dans ce passage-là par « choisi ». Choisi. Ça donne un sens à quand le peuple est sans vision, quand il est sans discernement, quand il est incapable de voir au-delà de ce qu'on ne voit pas. Le deuxième passage où je l'ai trouvé, c'est toujours dans Exode. C'est au moment où Moïse, Aaron, Josué et puis les 70 anciens montent à la rencontre de Dieu. Et il est dit qu'ils virent Dieu. Normalement, on voit Dieu et on meurt. Hein, mais là, il est bien précisé, Dieu ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils ne sont pas morts. Ils le virent, puis ils mangèrent et burent, etc. Mais ils virent Dieu. Il y a une notion de vision, de la plénitude de Dieu. On pouvait apercevoir Dieu, mais normalement ce qu'il était écrit, c'est que celui qui voyait Dieu, celui qui voyait la plénitude de Dieu, mourait. Donc dans ce contexte-là, on est vraiment dans une vision précise, complète, totale. C'est ça la notion de vision. On a aussi cette même notion de vision dans Psaume 11, au verset 4, où l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, il examine les hommes. Et on a ce même terme qui est attribué à Dieu quand Dieu regarde la terre, quand Dieu examine l'homme, quand Dieu regarde les temps, regarde les événements. D'accord ? Et on a enfin ce même mot qui est encore utilisé dans le psaume 27 par David quand il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Pour contempler. C'est aussi un des aspects de cette vision-là. Hein, donc il y avait la notion de choix, la notion de vision pleine et entière, cette même notion qui est attribuée à Dieu quand Dieu regarde la terre, et enfin cette notion de contempler, qui, pour moi, me donne une notion de plaisir derrière la notion de vision. Et je pense que la notion de vision ne doit pas être une notion triste. Hein, s'il y a cette notion de contemplation, c'est qu'il y a cette notion derrière de délectation de qui Dieu est. Donc dans la vision, dans ce qu'on voit, il y a cette notion de plaisir de voir Dieu à l'œuvre. Et donc je disais tout à l'heure, quand un peuple n'a pas de révélation, quand un peuple est absent de la vision, ne voit pas, il est dans le désordre, d'accord ? Il est perdu. Et j'ai trouvé un verset qui fait écho à ce passage-là, c'est dans Matthieu 9, 36, quand Jésus voit les foules, il y a marqué qu'il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et je me suis dit, waouh, waouh. Quand le peuple est sans vision, il est dans le désordre. Quand le peuple est sans vision, il est abandonné. Et là, on a Jésus qui vient vers les foules et qui réalise qu'il n'y a pas de berger, qui réalise qu'il n'y a pas de vision, qui réalise qu'il n'y a pas de révélation dans ce peuple-là. Et c'est pour ça qu'elles sont abandonnées, délaissées, perdues, que ce peuple est dans le désordre. Et on fait le même constat aujourd'hui, hein, dans notre monde. Dans Nombre 12:6, il est écrit « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Donc, ce passage-là nous indique deux choses au sujet des prophètes. Donc, les prophètes, dans l'Ancien Testament, c'était eux qui guidaient le peuple. La révélation, la vision, venait par les prophètes. Et il y a deux moyens de Dieu pour communiquer la révélation prophétique aux prophètes. Ce sont les visions et les songes. Ce passage-là, il est clair là-dessus. Je m'adresserai au prophète par une vision ou par un songe. Deux termes précis et deux termes qu'on retrouve un peu plus loin, qu'on retrouve dans Joël et qu'on retrouve aussi dans Actes, qui cite Joël. Dans Actes 2:17, il y a marqué « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Amen. Qu'est-ce qui me dit ce passage ? Ce passage, il nous rappelle tout simplement l'héritage qui est dans nos cœurs aujourd'hui. Cet héritage d'être la voix prophétique pour le monde. Cet héritage d'être la vision du peuple. Sans vision, le peuple est dans le désordre. Sans révélation, le monde court à sa perte. Et à qui Dieu communique aujourd'hui sa révélation ? À nous. Nous sommes pleinement héritiers. D'accord ? Dans ce passage, je bataillais avant parce que je me disais, il y a les fils et les filles, il y a les jeunes et il y a les vieux. Ça fait beaucoup de monde, je ne savais pas trop comment les Anglais, comment dealer avec ça. En y penchant plus clairement, vos fils et vos filles, c'est nous, d'accord ? C'est les enfants d'Israël, c'est ceux qui sont héritiers de la promesse, d'accord ? Dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes greffés sur Israël, nous sommes héritiers de cette promesse-là, d'accord ? Nous sommes les fils et les filles qui prophétiseront, nous sommes les fils et les filles qui révéleront, nous sommes les fils et les filles qui donneront une vision. Et derrière, on a simplement vos jeunes gens et vos vieillards. Il n'y a pas de notion de « les uns auront quelque chose, les autres auront autre chose ». C'est simplement pour dire que ce n'est pas réservé ni à une élite du peuple, ni aux jeunes, ni aux sages. Ce n'est pas révélé à quelqu'un en particulier et ça concerne chacun d'entre nous. On aurait pu avoir « vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards des visions ». On aurait pu avoir de la même façon cette chose-là. L'ordre n'est pas important. Par contre, ce qui est évident dans ce passage-là, c'est que nous sommes héritiers de cette révélation. Nous sommes héritiers de tout ça et on a quelque chose à en faire. On poursuit. Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de passages hein, parce que je démontre les choses ce matin. Matthieu 5, au verset 14 jusqu'au verset 16, dit, et il y a beaucoup de ces passages hein, que je lis ce matin, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, soit dans ce qu'on a chanté, soit dans ce qui a été prié. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et je ne sais pas pour vous, mais pendant longtemps, pour moi, ce passage était restreint à l'évangélisation. C'est-à-dire que Dieu me place en haut d'une montagne et ma lumière brille pour que les gens voient Jésus et parce que je suis là pour évangéliser. Et c'est à 200% vrai. Je ne suis pas en train de dire que ce passage ne concerne pas l'évangélisation. Oui, il concerne l'évangélisation. Mais ce matin, j'avais envie de le mettre en lumière justement d'une façon différente. Quand on se raccroche à ce que je viens de dire juste avant, le fait que nous sommes la voix prophétique de Dieu, le fait que nous sommes là pour éclairer les nations, de considérer que nous sommes porteurs de la révélation de Dieu, que nous sommes porteurs de la vision pour l'humanité, ça me place dans un contexte où je ne suis pas juste placé sur une montagne pour briller et puis pour témoigner de Jésus-Christ, c'est que je suis aussi là pour chercher à le révéler, pour chercher, Seigneur, quelle est la vision pour ce monde. Seigneur, quelle révélation tu veux donner à ce monde. Et il y a une dimension dans ce passage-là qui est autre que la simple évangélisation orale, qui est le simple témoignage. D'accord ? Est-ce que vous arrivez à le saisir, ce que je suis en train d'expliquer ? On a une notion d'héritage quand on dit qu'on est la lumière du monde, qu'on est placé sur une colline. Il y a cette dimension de révélation qui va avec. Et moi, le fait d'être la voix prophétique de Dieu pour le monde. Je me dis, si nous, on ne se lève pas pour ça, qui le fera ? Hein ? Si nous, on ne se lève pas pour ça, qui le fera ? Beaucoup. Beaucoup se lèvent pour ça. Dans la musique, dans les politiques, dans les médias, dans les entreprises. Le monde a besoin de lumière. Le monde a besoin de vision. Il a besoin de révélation. Et si nous ne cherchons pas à rêver pour Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est là ? Seigneur, qu'est-ce que tu mets là ? Et Seigneur, mes mains, elles vont aller faire quoi là maintenant ? Et si nous, on n'est pas dans cette quête de dire, mais Seigneur, de quelle manière on va briller ? De quelle manière on va avoir un impact ? D'autres le feront. Et j'insiste encore une fois sur le fait que une vision, ce n'est pas le travail des responsables. Ce n'est pas le travail des responsables, ce n'est pas le travail d'une élite. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous appelés à chercher qu'est-ce que Dieu met sur nos cœurs, quels sont nos rêves, quels sont nos projets. Parce que le monde en a besoin, d'accord ? Le monde est sans frein, le monde est dans le désordre, le monde court à sa perte, il ne s'en rend pas compte, mais le monde a besoin que nous nourrissions des rêves pour Dieu, que nous nourrissions des projets pour lui. Et où sont nos projets ? Où sont nos rêves ? À quoi on aspire ? Qu'est-ce qui bout dans nos tripes ? C'est quand la dernière fois qu'on a pleuré pour quelque chose ? C'est quand la dernière fois qu'on a senti Dieu mettre un fardeau en nous et de dire « Ah oui, mais oui, ça me fait de la peine, ça me fait mal, il faut faire quelque chose. » Combien de fois on a pensé « Oui, c'est vrai que ce serait bien de faire quelque chose pour ça. » Et puis combien de fois cette pensée s'est envolé aussitôt. Combien de fois est-ce qu'on a été au bout de ce qu'on sentait en nous, au fond de nous ? Combien de fois ? C'est important de ne pas négliger ça. On n'est pas en train de vivre un évangile du quotidien seulement, dans le sens où c'est jour après jour. Dieu, ce que j'ai expliqué en prélude, Dieu n'est pas quelqu'un qui vit jour après jour. Dieu est quelqu'un qui planifie. Dieu est quelqu'un qui projette. Dieu est quelqu'un qui a tracé une route qui nous a précédés et qui nous dépasse encore. Et notre dynamique, notre perspective pour notre vie, pour notre Église et pour ce monde doit être celle-là. La dimension d'une perspective, la dimension d'un avenir, la dimension de faire des projets, la dimension d'être capable de rêver, d'être capable d'être réveillé la nuit pour ce que Dieu, quand il va tordre notre estomac, là, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se lever. Il y a des gens qui ont rêvé et qui ont changé l'histoire. Et c'est pas très loin. J'en ai mis quelques-uns. Pour exemple, hein, Martin Luther King, auquel j'ai pensé, en 63, qui a fait un discours, il avait un rêve. I have a dream. Combien ce rêve-là a changé l'histoire ? Combien ce rêve a changé l'histoire ? Et si Martin Luther King avait laissé passer cette pensée-là, il n'était pas allé au bout de son rêve, et s'était pas accroché, s'était pas battu, on en serait où aujourd'hui ? On ne sait pas. Dieu en aurait peut-être levé quelqu'un d'autre, parce qu'il est souverain sur le plan qu'il a. Mais parce que Martin Luther King a été jusqu'au bout, parce qu'il a accompli ce qu'il avait à accomplir, il a changé l'histoire. Plus récemment, j'ai pensé à Josie Chacko. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'œuvre qu'il fait en Inde. Donc Josie Chacko, c'est quelqu'un qui était parti en Australie, je crois, ou en Nouvelle-Zélande, quelque chose comme ça. Et puis, il a été en Inde dans le cadre d'un voyage avec son épouse. Et en allant là-bas, il a été complètement retourné par un petit enfant qui leur a montré la route et ouvert, qui leur a servi de guide pendant plusieurs jours. Il a été retourné par ce qu'il a vu là-bas. Il a été, je dirais, quand je parle tout à l'heure, hein, des fardeaux là, qui sont sur nos tripes, je pense que c'est un peu ça. Il y a Dieu, il a chargé la... Il lui a mis la dose là et il n'arrivait pas à s'en défaire. Il y pensait la nuit, il se réveillait avec, il y pensait la journée. Alors qu'il avait, c'est quelqu'un qui est très carré, c'est quelqu'un qui projetait beaucoup d'autres choses dans sa vie. Quand on lit son témoignage, il avait envie de faire beaucoup d'autres choses, de s'occuper des choses de Dieu après, mais il avait mis d'autres choses en premier. Et puis là, Dieu, il a un petit peu renversé les choses. Et il a donc eu ce rêve, en dialoguant avec Dieu, il a eu ce rêve d'implanter 100 000 églises dans le nord de l'Inde. 100 000 églises en 30 ans, je crois. Il me semble que c'est 30 ans. C'est un rêve qui est complètement dingue, qui est complètement fou. Hein. On est d'accord, surtout que la région, le nord de l'Inde, est une région qui n'était pas touchée par l'évangile du tout. Aujourd'hui, 15 ans après, un petit peu plus de 15 ans, il y a 5000 églises qui ont été implantées déjà. Et il y en a autant qui sont en devenir. Il y a autant d'églises qui sont en train de se former. Et c'est exponentiel, hein, les chiffres. Hein. Il y a 1500 leaders qui ont été formés. Quelqu'un qui est parti de zéro, quelqu'un qui est parti d'un rêve, qui est parti seul, d'accord ? Aujourd'hui, 15 ans après, moi je me dis, Marguerite, on est même plus vieux que ça, et on en est à une, deux, trois, pas comparable, 5000 églises. Et si on compte celles qui sont en train de se former, on en est quasiment à 10 000. Imaginez si ces églises-là continuent de se multiplier, Moi, j'attends avec impatience les 15 prochaines années, voir si... En 30 ans, il est arrivé à ses 100 000. Un petit peu plus près de nous, à Nîmes, c'est ce que Farid nous a rappelé au week-end de rentrée. J'avais envie qu'on se le rappelle aussi. Il y a des gens qui se sont levés dans notre région aussi. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont créé des crèches, ils ont créé des orphelinats, des sociétés de distribution de bourses pour étudiants, des écoles primaires, des écoles de couture, d'autres écoles encore, des maisons à caractère social, des maisons de bains de mer pour les pauvres, des associations qui permettaient aux protestantes de trouver du travail, des sociétés de distribution de vêtements et nourriture aux pauvres. Ils ont créé les maisons de santé protestantes, qui à l'origine étaient là pour délivrer des soins aux pauvres, des maisons de retraite, de repos, de vacances, des lieux d'apprentissage, notamment pour la couture, des foyers pour les loyers modestes, des associations pour visiter les personnes âgées qui étaient esselées, des mutuelles, des prévoyances, des sociétés de pension de retraite, des associations pour lutter contre l'alcoolisme. Ils ont mis à disposition des jardins à cultiver, une société biblique pour diffuser la Bible, des cultes spéciaux dans la ville pour évangéliser, des lieux de rencontre et de réflexion, etc., etc., etc. Notre région est pleine de gens qui ont rêvé. Notre région est pleine de gens qui ont rêvé. Et nous ? Est-ce qu'on va laisser... notre région, notre ville, est-ce qu'on va laisser ce monde avancer dans le désordre ? Est-ce qu'on va le laisser avancer sans frein ? Ou est-ce qu'on va se lever pour briller ? Est-ce que nous aussi, on va nourrir des projets ? Est-ce que nous aussi, on va nourrir des rêves ? Est-ce qu'on va mettre un pied dans cette perspective divine et éternelle qui nous dit, oui, vous êtes en marche. On n'est pas là, on est là. Et c'est toute la différence dans notre vie. C'est toute la différence. Quand je commence à nourrir des projets, je porte du fruit. Le thème, cette année, c'est Néhémie. Qui c'est qui l'a lu, Néhémie ? On progresse, mais on est loin du compte. Néhémie, c'est un tout petit livre, d'accord ? Il n'est pas très long. Je vous encourage vraiment à le lire. Il y a des trésors là-dedans. Et dans l'histoire de Néhémie, il a des amis qui viennent chez lui et il commence par demander des nouvelles parce que lui, il n'était pas en Israël. Il commence à demander simplement par demander des nouvelles du peuple d'Israël. Et quand ses amis lui racontent dans quel état est le peuple est dans la honte, dans l'opprobre, dans l'esclavage, les ruines de Jérusalem, ils lui décrivent. Ils lui décrivent des murailles qui sont trouées, ébréchées, effondrées, des portes qui ont été brûlées. Et quand Néhémie entend ça, il se met à pleurer. Et rejoins ce que je vous disais tout à l'heure. Qui aujourd'hui porte un fardeau encore ? Hein ? Est-ce qu'on est encore capable de s'émouvoir pour des choses ? Est-ce qu'on est encore capable de laisser cette liberté à Dieu d'écrire, de mettre un poids là, dans nos cœurs pour quelque chose ? Je crois que c'est une attitude de cœur aussi, d'être capable de demander « Seigneur, fais-moi ressentir comment ton cœur boue, comment ton cœur est meurtri pour des choses. » Puis derrière ça, moi je me suis dit, Néhémie, il va foncer. Attends, on me dit que ma famille est dans la misère, qu'elle est, etc. La première chose que je fais, je prends ce que j'ai avec moi et je vais casser la figure à tout le monde. Hein ? Non, Néhémie, pendant 4 mois, il attend. Pendant 4 mois, il ne dit rien, rien, rien. Et pendant ces 4 mois, il fait simplement grandir sa vision. C'est-à-dire qu'il a reçu un fardeau, je pense que Dieu a éveillé un rêve chez lui, celui de libérer Israël, celui de rebâtir la muraille, celui de redonner une dignité à son peuple. C'est ce rêve-là que Dieu a éveillé en lui quand il a entendu l'état dans lequel était le peuple. Mais de ce rêve-là, Néhémie a pris du temps pour le laisser grandir, pour le laisser mûrir, pour le travailler, pour en faire un projet, pour faire quelque chose qui soit cohérent, construit, qui puisse s'inscrire dans la durée, qui puisse amener à quelque chose. Pas simplement de réagir sur l'émotion, qui est bonne parfois, mais de poser les choses. Et 4 mois après, Dieu lui a donné la faveur d'une situation qui a permis de déclencher la suite. D'accord ? Et Néhémie a pu être envoyé avec des lettres, avec des matériaux, avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir reconstruire les murailles de Jérusalem. C'est beau ça. Dans Néhémie 2:12, il précise quelque chose. C'est pour ça que je parle comme ça de Néhémie. La Bible dit, c'est lui qui le dit, ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire. Il ne dit pas, j'ai été ému et donc j'y suis allé. Non, Néhémie précise bien ce que Dieu m'avait mis au cœur de faire. Et c'est une précision, je trouve, qui est importante. Quand Dieu met quelque chose sur notre cœur, et qu'on se met en action, moi je suis convaincu que sa faveur, elle est avec nous, comme elle a été avec Néhémie. Il proclame, ils ont vu que la main de l'Éternel était avec moi, et donc ils y sont allés. Après, il y a un aspect important chez Néhémie, c'est qu'il a su s'entourer, transmettre sa vision, parce que Néhémie seul n'aurait jamais pu reconstruire les murailles de Jérusalem. Mais dans Néhémie 4:6, il est marqué que le peuple prit à cœur le travail qu'ils avaient fait. Et c'est ce même terme qu'on avait, quand Néhémie dit que Dieu lui avait mis à cœur de faire ce travail-là. Dieu a déposé un rêve en lui. Et la force de Néhémie, ça a été d'être capable de transmettre, de communiquer ce rêve-là. Et il est dit du peuple que le peuple a accueilli ce rêve-là aussi dans son cœur. Et ça me parle sur le fait que Dieu me donne pas une vision juste pour moi. Quand Dieu me donne un rêve, quand Dieu me donne un projet, il ne le donne pas simplement pour moi-même. L'appel, il est personnel. Mon appel, il est personnel. Mais il englobe les autres, toujours. Le don, on parle des dons du Saint-Esprit, il est personnel. Quand Dieu me donne une parole de connaissance, il me la donne à moi, pas à quelqu'un d'autre. Si c'est moi qui donne la parole de connaissance, elle est à moi. C'est un don personnel. Et pourtant, il est au service du corps. Et il y a cette dimension globale du fait que nous ne sommes pas seuls dans le rêve que nous avons. Nous ne sommes jamais seuls dans les projets que nous mettons en œuvre. Et c'est ô combien important de savoir s'entourer, de savoir communiquer avec d'autres, de savoir emmener d'autres avec nous dans les rêves que nous avons. Parce que je suis convaincu que Dieu ne donne pas des rêves à une seule personne seulement. Quand Dieu écrit des projets sur nos cœurs, c'est des projets qui nous dépassent et d'autres peuvent toujours y rentrer. J'aurais pu faire tout à l'heure un exemple de dire Chantal va me soulever une table, etc. Et puis elle n'aurait pas pu, elle aurait forcément demandé de l'aide. Et je pense qu'on va être confronté, quand on va commencer à rêver, quand on va commencer à mettre des projets en place, on va être confronté à un moment donné à un problème de ressources comme Néhémie l'a été. Parce que Néhémie seul ne pouvait pas faire les choses. Et à ce moment-là, souvenons-nous que le rêve que Dieu met sur nos cœurs, il nous dépasse. Il dépasse très largement ce que nous sommes nous seuls. Et osons demander de l'aide, osons demander conseil, osons nous entourer et avancer à plusieurs dans ce que le Seigneur nous donne. Et on va être, je pense, surpris des fois de réaliser que d'autres rêvent la même chose que nous. Il y a juste ce danger, effectivement, de s'approprier un rêve qui est bon à la base des fois, mais de dire c'est mon rêve, c'est mon projet. Comme je parlais de Josie Chaco, par exemple, tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pourrait très bien aujourd'hui dire c'est mon rêve et je veux implanter 100 000 églises. Et ce danger, il sera toujours là. Que lui court pour sa propre vision, que lui court pour son propre gain, quelque part. Et c'est pour cette raison-là que j'ai remis dans la perspective ce matin de dire ce ne sont pas nos rêves, ce ne sont pas nos projets. Tout ce qu'on mettra en place ici, c'est à toi, Seigneur. C'est à toi. Effectivement, ça commence par ce que tu mets dans mon cœur et ça continue par ce que moi je vais faire, par ce que je vais réfléchir, par ce que je vais projeter, par ce que je vais construire. Mais, Seigneur, c'est à toi. Seigneur, c'est pour toi. Si je suis une lumière dans ce monde, si je suis la voix prophétique du monde, c'est pour ta gloire. C'est simplement pour révéler Jésus-Christ. C'est simplement pour témoigner de sa grandeur, pour témoigner de son autorité sur le monde, pour témoigner de l'espérance qu'il donne. Et j'aimerais juste finir en vous invitant vraiment au nom des responsables que je parle. Il y a de la place dans l'Église. Il y a de la place. Il y a de la place. L'Église n'est pas pleine de projets. Elle n'est pas pleine de rêves. Il y a de la place. Et moi, je veux vous encourager à chercher, Seigneur, écris sur mon cœur. Seigneur, viens remuer mes tripes. Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour mener des projets, pour construire des rêves. Et c'est important. Et il y a de la place. Nous, on vous encouragera. On vous soutiendra. On vous accompagnera. Toujours. Mais n'hésitez pas à rêver. N'hésitez pas à projeter. J'ai envie de dire, ensemble, levons-nous et bâtissons. Hein. C'est le thème de cette année. C'est pas levez-vous, bâtissez. C'est pas que certains se lèvent, que l'Église se lève et qu'elle bâtisse. Non, c'est levons-nous, bâtissons. On est sur un chemin, on est en marche. Et ensemble. Amen. Je vous propose juste de nous lever. J'avais envie de finir par la prière. C'est pas forcément une habitude, mais je peux finir comme ça. Et je voulais vous lire ce passage de Jérémie 29, 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, la perspective de Dieu pour nos vies, la perspective de Dieu pour l'Église maintenant, un Dieu qui connaît les projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, des projets dans lesquels notre vision se délecte de ce que Dieu fait et non pas s'attriste de ce qu'il y a à faire, afin de vous donner de l'avenir, afin de vous faire entrer dans cette perspective que je suis en mouvement, que j'agis, que je projette, que je suis infiniment au-delà de ce que le monde essaye de faire. Afin de vous donner de l'avenir, afin de vous donner de l'espérance. Et j'ai juste envie qu'on puisse prier comme ça ce matin. Vous pouvez ouvrir les mains si vous voulez, et puis je vais prier. Et je vais réclamer à Dieu de venir écrire en nous. Je vais réclamer à Dieu de venir réveiller son avenir, son espérance pour nos vies, de venir réveiller des rêves et des projets. Oh Seigneur. On l'a chanté ce matin, on le proclame encore, Seigneur, tu es un Dieu en marche, Seigneur, tu es vivant, tu es en mouvement, Seigneur. Combien il est bon de savoir, Seigneur, que c'est pas nous qui avons à défricher, Seigneur, que nous avons à entrer dans des voies qui sont éternelles, Seigneur, que nous avons juste à mettre un pied, Seigneur, dans des chemins que tu as tracés d'avance pour nous, Seigneur, dans des œuvres, Seigneur, que tu as déjà planifiées pour nous afin qu'on les pratique, Seigneur. Et oui, nous voulons être des changeurs d'histoire, Seigneur. Oui, nous voulons nous lever, Seigneur, et transformer ce monde, Seigneur. Nous voulons nous lever, nous tenir sur la colline et briller, resplendir, Seigneur, de la révélation que tu donnes, Seigneur. Dans le noir dans lequel est ce monde, Seigneur, nous voulons que ta révélation sur nous, celle que toi tu nous accordes par ton esprit, resplendisse sur le monde, Seigneur. Oh Jésus, shaladakala. Combien nous avons besoin, Seigneur, que tu nous réveilles. Combien nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes déposer des fardeaux sur nos cœurs. Et nous te disons ce matin, tu as autorisation, Seigneur, de venir écrire. Nous t'autorisons, nous réclamons, nous demandons, Seigneur, viens nourrir nos cœurs de tes projets, Seigneur. Viens nourrir nos âmes de tes rêves, Seigneur. Viens remplir nos mains, Seigneur, d'action pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.